7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. La parole est aux jeunes qui veulent entreprendre en Afrique aujourd'hui avec les conseils du coach Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Et quant à vous les voisins et les voisines, c'est votre rendez-vous, celui des JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Alors, si vous êtes jeune diplômé ou plus expérimenté, que vous avez démarré un projet convaincant si possible, hein, quels que soient les secteurs, on vous donne la parole dans l'émission pour parler de vos problèmes, car forcément quand on entreprend, on a des séries de galères. Didier Akwété vous écoute, répond à vos questions parce que vous le valez bien. Je vous donne le numéro WhatsApp et téléphone fixe 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 et aujourd'hui on a un JPAG, un jeune patron de l'Afrique qui gagne en chair et en os en face de vous, Didier Akwété, c'est sympa.
On met une réalité sur les projets.
Exactement.
Bienvenue.
Et on a des projets intéressants aujourd'hui. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au numéro indiqué. Tout de suite, on donne la parole à Lionel, 29 ans. Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire,
oui,
Lionel.
Bonjour Emmanuel. Oui.
Et vous habitez en région parisienne.
C'est bien ça.
Mais
oui,
votre projet concerne bien l'Afrique. Vous vivez entre les deux continents pour
exactement
le moment.
Exactement, oui,
ça
c'est ça.
Allez, on va en savoir plus dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Lionel, 29 ans, jeune patron de l'Afrique qui gagne. Vous vivez en région parisienne. Votre parcours, c'est un master en télécommunication à l'université Paris-Est.
C'est
ça, hein?
Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
Paris-Est qui s'appelle aussi...
Université Marne-la-Vallée.
Marne-la-Vallée. Oui. Et puis ensuite, 6 ans d'expérience dans le consulting télécom.
Oui.
Et votre projet, c'est un projet immobilier. Vous avez co-créé avec un associé, Wizodia, en 2017. C'est une plateforme pour réaliser à distance un projet immobilier en Afrique. Votre associé est togolais. C'est pour ça que vous avez commencé à ouvrir d'abord à Lomé. Vous êtes maintenant présent en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et puis bientôt, j'espère, il y aura le Cameroun, le Sénégal. Pourquoi un projet immobilier un peu comme une agence immobilière, mais en plus développé? Pourquoi vous avez voulu...
Oui, c'est bien ça. Alors en fait, tout est parti d'une expérience personnelle. Donc il y a quelques années, cela, on avait souhaité acquérir un terrain en Afrique, à Lomé. Et lorsqu'on a lancé en fait la procédure, nous sommes aperçus qu'il a fallu attendre plus de 3 ans pour avoir juste un reçu de paiement de l'acquisition du terrain. Nous sommes dit aujourd'hui, puisque nous pouvons suivre depuis la Chine, lorsqu'on achète un article sur le net, comment le transport jusqu'à ce qu'on soit livré.
Et là, pour acheter un terrain, c'est 3 ans de galère.
C'est 3 ans de galère. Donc d'où est partie en fait la création de la plateforme Wizodia, qui permet aujourd'hui de pouvoir sécuriser et suivre en fait toutes ces transactions immobilières.
Alors concrètement, moi je veux faire construire une maison à Abidjan,
oui,
à Marcory.
Oui.
Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez comme service?
Alors, il faut savoir que nous, en fait, nous avons des professionnels immobiliers locaux, donc ils sont basés dans les différents pays où nous sommes implantés. Donc tout d'abord, nous, on va en fait vous proposer un terrain qui est déjà viabilisé et que nous avons sécurisé en amont à travers notre cabinet de notaire qui est sur place.
C'est ça, donc vous avez vérifié, titre de propriété, etc.
Exactement,
etc.
Auprès au fait du ministère de la Construction. Donc on vous le propose, vous avez la possibilité de recevoir des photos et de pouvoir le faire visiter. Une fois que vous êtes d'accord, nous, le cabinet de notaire qui est sur place va se charger pour vous d'entreprendre toutes les démarches administratives, mmh, et aussi la transaction financière. Donc la transaction financière sécurisée par notre cabinet notaire. Donc on suit en fait le process pour vous à distance et vous êtes tenu informé durant les différentes phases en fait d'avancement de votre titre foncier jusqu'à ce que vous le recevez chez vous ici en France ou en Europe, quel que soit votre pays de résidence.
Ouais. Et ensuite?
Et ensuite en fait nous vous proposons un plan. Un plan avec notre cabinet d'architectes agréés qui est aussi sur place, qui va concevoir avec vous le plan de votre future maison, avec un chiffrage que nous allons en fait aussi effectuer pour vous. Et par la suite, toutes les démarches du permis de construire et toutes les démarches afférentes en fait à la construction seront entamées pour vous directement par notre équipe sur place. Mmh. Et une fois que tout est validé, que vous êtes satisfait de votre plan, nous lançons les travaux avec nos constructeurs, en fait, partenaires, en fait, qui va se charger de la réalisation de votre maison.
Donc, vous gérez tout le suivi des travaux. Moi, je suis à distance. Je reçois des vidéos.
Exactement. Donc, on a une équipe dédiée sur place, qui est une équipe de suivi des travaux, qui va se charger tous les jours de suivre les avancements, de vous envoyer des photos et des vidéos.
Donc c'est vous qui relancez les entrepreneurs tous les jours, là,
exactement,
parce qu'ils sont en retard.
C'est ça. C'est nous, exactement, nous les suivons à la trace. Et nous vous emmenons des photos et des vidéos chaque semaine pour que vous puissiez savoir exactement est-ce que la fondation a été faite, où nous sommes, est-ce que l'élévation des murs a été lancée. Donc directement sur la plateforme en ligne, vous avez les différentes informations. Donc vous suivez en fait à distance votre projet.
Et ensuite ?
Et ensuite, jusqu'à la remise des clés, donc on fait ce suivi. Et lorsque la construction est finalisée, nous, on fait un suivi de contrôle avec nos cabinets d'architectes qui suivaient déjà de façon technique avec le bureau d'études les travaux. Et par la suite, on vous informe que votre construction, votre maison, elle est prête et on vous remet les clés.
Mais c'est très chronophage de suivre un chantier, les paperasseries, l'administration. C'est pas évident de gagner de l'argent là-dessus.
Oui, c'est pas évident de gagner l'argent là-dessus. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires, des professionnels immobiliers sur place. Aujourd'hui, ce qu'on apporte, c'est la visibilité du projet. Donc la visibilité du projet pour la personne qui aujourd'hui n'a pas le temps de faire des allers-retours depuis son pays de résidence. Et derrière, en fait, nous avons des accords de partenariat avec ces différents professionnels avec qui nous touchons des commissions.
Et c'est ça. Et moi, je paye combien en plus pour tous ces services-là ? Parce qu'il y a le notaire, il y a l'architecte, il y a les démarches administratives. Combien ma facture, elle va se monter à combien en plus ?
Votre facture va s'élever à 550 euros.
Donc 550 euros
de frais en plus.
Ouais.
Ça, c'est les frais de dossier que Wizodia prélève. Derrière, vous avez qu'à financer votre projet. Donc, c'est le coût qui sera déterminé par l'architecte en fonction de votre plan. Donc, nous ne touchons plus un centime de votre poche. Par ailleurs, nous derrière, puisque nous avons un partenariat avec les constructeurs sur place, donc eux, ils vont en fait nous rétribuer une commission vis-à-vis de l'apport d'affaires que nous avons effectué dans notre collaboration.
Et après, moi, on me facture du pourcentage sur la facture totale, pourcentage d'architecte, etc., etc. C'est ça ?
Non, la facture d'architecte, en fait, n'est pas... Parce que c'est l'architecte qui va déterminer votre projet. Donc, lui, il assure, en fait, le chiffrage qu'il vous donne à moins et plus 10%. C'est-à-dire le montant qui vous est donné au début du projet, il ne va pas changer, même durant la phase de construction, et il s'engage à garantir ce montant. Donc vous n'avez pas de frais en plus qui vous seront en fait...
Aujourd'hui, vous en êtes où ?
Aujourd'hui, nous sommes dans 4 pays, bientôt dans 5. Donc en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Cameroun, bientôt au Sénégal. Et nous avons fait une vingtaine de contrats clients qui ont été déjà signés, des projets qui sont en cours, notamment à Abidjan, à Benjerville, dans la localité d'Anclé. Donc ce sont fait des constructions de maisons, des acquisitions des terrains que nous avons effectués aussi essentiellement aussi dans la ville d'Abidjan, car c'est une ville aujourd'hui qui est beaucoup en mouvement. Et au Cameroun aussi, donc nous avons lancé en fait des projets de construction au Cameroun, de construction individuelle avec notre partenaire.
Vous serez rentable dans combien de temps ?
Nous pensons être rentable dans 5 ans.
Qu'est-ce que vous en pensez, Didier ? Du service non, de l'idée, là, juste.
Oui, non, c'est une bonne idée, parce que construire déjà lorsqu'on est sur place n'est pas évident, et j'ai plein d'amis qui ne gèrent que vraiment l'expression des emmerdes lorsqu'on a un projet immobilier, et lorsqu'on est à distance, c'est encore pire. Donc, l'idée est bonne.
La valeur ajoutée, c'est vraiment l'aspect digital. Hein. C'est-à-dire qu'on suit tout à distance, sur un espace internet,
c'est
etc.
Hein. Exactement.
Dans l'absolu, c'est bien. Pour rentrer dans le projet, Lionel propose en réalité une sorte d'accompagnement qui, en principe, peut être déjà fourni par l'architecte avec qui vous faites votre projet. Sauf que, généralement, sur le terrain, ils n'ont pas le temps, ils sont débordés, le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, on ne sait plus qui doit faire quoi, le chantier mal exécuté. Et donc souvent, on prend des experts pour aller vérifier la qualité des travaux et s'assurer que l'argent qu'on a envoyé sert effectivement à la réalisation du projet. Et c'est vrai, parfois même des projets deviennent virtuels, vous regardez les vidéos, vous regardez les photos, mais quand vous venez sur le terrain, il n'y a pas de maison. C'est vrai, c'est un peu pour peut-être éviter ces mauvaises surprises.
Ouais.
Maintenant, c'est vraiment la qualité des prestataires avec lesquels vous travaillez qui fait la différence. Et votre capacité à leur tordre le bras de temps à autre, à faire un suivi très efficace. Et là, quand on n'est pas sur le terrain, généralement, tout part en vrai.
Ouais, c'est un boulot de chien quand même, hein, ouais. Franchement, ce boulot-là.
J'avais une question, Lionel. À qui le client paye finalement les prestations ? C'est pas à vous. Hein.
Non, les clients.
C'est directement
aux
professionnels.
Sauf le frais de dossier de départ.
Hein, sauf les frais de dossier au départ qui sont en fait des frais de dossier Wizodia. Mais derrière, en fait, le financement du projet, il est directement dédié aux professionnels concernés.
Qui, eux, vous rétribuent. en rétro-commission, c'est
oui,
ça
oui, plus tard.
C'est ça, oui. Quelle garantie vous apportez aux clients lorsque le chantier est mal exécuté ou
alors, donc, nous avons des garanties en fait, de malfaçon. Donc déjà sur tous nos projets, donc des garanties de malfaçon, une garantie décennale qui aujourd'hui est lancée. Nous sommes aujourd'hui l'une des seules entreprises au Cameroun qui avons la garantie décennale à travers en fait notre constructeur sur place. Nous travaillons aussi pour la mettre en place en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore effectif. Par ailleurs, nous avons aussi des cautions, des cautionnements qui sont faits au niveau des constructeurs. C'est-à-dire le constructeur aujourd'hui, lorsqu'il entame le projet d'un client, il y a un cautionnement qui est fait au niveau de sa banque, au niveau du banque tierce, qui garantit l'effectivité de ce projet. Donc, en cas de défaillance, c'est cette banque tierce qui va se porter garant pour finaliser les travaux.
C'est ça. Voilà. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes, ça y est, vous avez déjà des accords de partenariat avec des banques pour faciliter aussi des octrois de crédit immobilier pour vos clients. La question principale que vous voulez poser à Didier Akwété aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
J'ai deux questions. En fait, la première question, c'est au niveau de la collaboration avec le secteur public. Donc, comment aujourd'hui collaborer efficacement pour une entreprise de cette envergure avec le secteur public, pouvoir répondre en fait, aux besoins de la population locale, ce qui n'est pas toujours évident lorsque...
Avec, ce que vous voulez dire, c'est l'administration.
Ah oui, avec ça. Ah,
les enquis qui demandent l'administration.
Exactement.
Comment se démêler Et la deuxième question ?
La deuxième question, c'est les principaux leviers de financement. Qu'une start-up, en fait, aujourd'hui, qui est en train de s'implanter en Afrique, peut avoir en Afrique... même les principaux leviers de financement en Afrique, mais principalement.
Alors, la première question, l'administration, c'est plutôt collaborer avec l'État sur des projets immobiliers de la classe moyenne qu'on voit dans tous les pays, ou plutôt traverser les méandres de l'administration pour faire les papiers, notamment jusqu'au titre foncier.
C'est un peu des deux.
Bon, parce que déjà... j'avais compris
c'est
plutôt
l'autre.
C'est un peu des deux. C'est déjà il y a la première phase qui consiste en fait de pouvoir déjà collaborer au niveau des projets publics qui sont mis en place, qui sont dédiés à la population locale, à cette classe moyenne, déjà.
Notamment en Côte d'Ivoire.
Notamment en Côte d'Ivoire, où il y en a pas mal aujourd'hui. Et aussi, le second projet, c'est au niveau du process, en fait, de mise à disposition des documents administratifs, comme par exemple le foncier. Comment aujourd'hui pouvoir, en fait, collaborer plus efficacement avec les délais qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît, lorsqu'on veut lancer, par exemple, en Côte d'Ivoire, la CD, qui est le titre de propriété en Côte d'Ivoire.
C'est une horreur. Tous les pays.
Mais c'est ça, Lionel, il met vraiment le doigt sur des sujets qui sont essentiels pour parce que votre cible, c'est la diaspora, mais pas seulement. Au début, c'était surtout des clients de la diaspora africaine et aujourd'hui, vous avez un peu élargi.
C'est ça. Donc au départ, c'est les clients de la diaspora, mais par la suite, nous avons en fait aussi un besoin même local. Donc des personnes qui sont dans les différents pays concernés, qui nous contactent ici en France parce qu'ils veulent qu'on suive leur projet. Et du coup, voilà, donc nous adressons aujourd'hui...
Didier, vous êtes à Abidjan, vous voulez faire construire à Cotonou ou vous adressez à Lionel?
Bon. Oui, c'est possible. Non, mais sur la première question...
Le projet, il est séduisant. C'est quoi le problème? C'est quoi le hic pour pouvoir avancer?
Je réponds d'abord à ces questions. Non, les meilleurs de l'administration, vous êtes obligés d'être sur le terrain. Parce que ça prend du temps, il faut aller dans les administrations, suivre les dossiers, jusqu'à ce que tout cela devienne parfaitement huilé, informatisé, digitalisé, pour que ça aille plus vite. Parce qu'il y a toute la période aussi d'enquête, vous savez, parfois les terrains villageois, ça appartient à des villageois, il faut tous les accords, parfois des familles, parfois ça a été vendu, revendu. Donc toute la période d'enquête et d'investigation, c'est vrai, prend un peu de temps, parce que bien souvent, ce sont des terrains villageois, sauf lorsque ça appartient déjà à l'État, comme par exemple en Côte d'Ivoire, je crois, Sikoji ou...
Mais ça, les notaires savent en principe débroussailler ces terrains-là.
Voilà, ça prend un peu de temps et les notaires, quand ils sont efficaces, ils essaient d'aller un peu plus vite. Sur le partenariat avec l'administration, dans le cas de ces gros projets, généralement, ce que je vois, ce sont des projets qui sont confiés à des promoteurs qui apportent l'expertise et le financement. Vous venez plutôt en suivi d'exécution. Généralement, le promoteur, entre guillemets, fait le suivi, mais on prend une tierce partie comme, Bureau Veritas ou d'autres partenaires comme ça qui viennent vérifier l'effectivité des travaux, garantir, entre guillemets, la fiabilité de ce qui a été fait. Donc, il y a des bureaux d'experts qui le font. Donc, soit vous positionnez en expertise avec des experts qui viennent ou alors carrément en société de développement et de promotion immobilière qui signe des partenaires avec l'État et parfois dans le deal, l'État met à disposition les terrains, vous assurez la construction. Vous pouvez dire, parce que vous Vous attaquez à la diaspora dans un premier temps, ce qui est une cible tout à fait intéressante et adaptée, hein, ou une diaspora dans un pays africain qui construit un autre pays. Mais vis-à-vis de l'État, c'est toujours un peu le rôle de suivi, en guillemets, que vous pouvez effectuer. Pas tellement pour l'État, parce que je ne vois pas l'État vous engager pour cela. En revanche, lorsque l'État, dans le cadre de ses projets de développement immobilier et d'accès à l'habitat pour les classes moyennes, c'est de dire les classes moyennes, nous allons vous apporter, vous, une garantie de bonne exécution et de suivi. Donc c'est plutôt les futurs propriétaires qui vont s'engager avec vous, avec entre guillemets la caution de l'État pour s'assurer du bon déroulement. Mais généralement, les promoteurs sont autour de tous ces partenaires en général.
Est-ce que Lionel se pose les bonnes questions ou est-ce que les difficultés sont ailleurs pour vous ?
Alors, à mon avis, les difficultés sont ailleurs. Parce que le suivi qu'il fait, théoriquement, l'architecte est censé le faire. Normalement, le bureau d'experts est censé le faire. Celui que vous payez pour faire ça est censé le faire. Donc, c'est surtout la qualité des acteurs. Et je crois que c'est aussi une question de réglementation et aussi de sanctions. Parce qu'il y a tellement de projets que je vois en Afrique dans l'immobilier, où soit c'est l'architecte, soit c'est le promoteur lui-même, soit c'est celui qui fait la construction. Et donc tous ces acteurs se renvoient les responsabilités sans réellement une sanction qui peut aller jusqu'à la fermeture d'entreprise, la radiation de l'ordre des architectes, etc. Donc c'est souvent là où le bât blesse, de ce que je vois. Donc Lionel sera toujours en fait sujet à la faiblesse et à la fragilité et au non-sérieux de certains de ses partenaires, sans que lui non plus puisse faire grand-chose. Et in fine, c'est lui qui va se retrouver comptable, parce que c'est lui qui, pour 500 euros, a donné une caution, entre guillemets, à un client. Donc, je dirais, dans un premier temps, c'est vraiment la qualité du choix des acteurs de vos partenaires pour exécuter les projets. Mais en réalité, à terme, si votre entreprise grandit et que vous avez les bons promoteurs, vous pouvez même mobiliser des financements pour faire ces projets, à la limite. Vous voyez, vous donnez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Bon, il y a un architecte qui est très connu, enfin, Guillaume Kofi et Diabaté, qui sont très sérieux. Quand ils font des projets, les gens disent c'est du sérieux parce qu'ils ont un track record, ils sont à l'ordre. Bref, ils ont une note, entre guillemets, de capacité exécutée, de sérieux, qui est reconnue. C'est arrivé, probablement, si vous faites, par exemple, demain un site internet, où vous avez peut-être un site, qui peut être un projet dans le projet, c'est lorsque quelqu'un veut faire un projet dans un pays, de pouvoir lui dire, voici les acteurs dans chacun des domaines les plus sérieux. Vous voulez acheter un terrain, ce notaire est le plus sérieux.
Et c'est ce que vous faites déjà, ça.
Vous voulez... Oui, mais attention, c'est-à-dire que là, il est en exécution, mais je lui dis, en plus de l'exécution, il peut être en conseil pour les uns les autres. Parce que du coup, là, vous allez, entre guillemets, devenir... une sorte d'agence de notation, on va dire ça comme ça, de tous les acteurs de la filière
immobilière.
Et du coup, vous devenez une référence et au fur et à mesure, vous pouvez vous-même vous substituer à ces acteurs. Parce que c'est vraiment connaître les meilleurs acteurs, les plus sérieux, lorsqu'on exécute ce genre de projet. Et si vous arrivez dans tous ces différents pays à recenser les acteurs par filière, à essayer de traquer leur réalisation, leur achievement et leur donner note, vous allez rendre un sacré service.
C'est à la fois même votre faiblesse et votre force, au privé. En fait, hein, Lionel, c'est votre faiblesse et votre force, c'est d'être dépendant des autres, d'être dépendant d'autres secteurs professionnels.
Il dépend complètement des autres pour l'instant, parce que en plus, c'est une jeune équipe.
Vous y croyez ou pas au projet de Lionel ?
Si, c'est un bon projet, mais je lui dirais...
à l'heure actuelle, avec du service complètement intégré, de la recherche de terrain jusqu'à la livraison clé en main d'un logement. Tout digitalisé,
ça existe,
suivi internet.
Ça existe d'une certaine manière, mais pas peut-être de manière aussi intégrée, quoi. Mais vraiment.
Bon, alors on dit quoi, Lionel ?
Lionel, super, il faut continuer, mais il faut arriver à bien identifier vos partenaires sur le terrain et à faire un suivi extraordinaire et à ne pas hésiter à créer une sorte de centrale de notation de tous ces acteurs de la filière. Parce que ça manque. Si vous avez un site demain où je dis j'ai un projet en Côte d'Ivoire, sur les 10 notaires référencés, numéro 1, c'est numéro 2, parce qu'il il va toujours au bout des ACD en temps record.
C'est ça, le TripAdvisor de la construction
exactement.
En Afrique.
Celui qui construit sans défaut, c'est celui-là. Celui qui fait les alus et les vitres, c'est lui, etc., etc.
Merci à vous, Lionel. Vous restez quand même jusqu'à la fin de l'émission avec le coach Didier Akwété. Merci en tout cas d'être venu dans le studio des 7 milliards de voisins. Vous nous tenez au courant pour le projet.
Merci à vous.
Sur les prochains bureaux qui vont ouvrir. Le Sénégal bientôt.
Il n'y a pas de souci, oui, le Sénégal bientôt.
Merci. Dans quelques instants, on donne la parole à une entrepreneuse. 33 1 84 22 71 71. Ça sera juste après. Adiouza.
Le dharma beugla. Le dharma sopla.
De voisins, on est sur RFI en direct avec le coach Didier Akwété qui conseille, qui écoute surtout les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent après le projet d'immobilier intégré de Lionel qui est un voisin de passage dans le studio de RFI. On accueille Laure qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Laure.
Ah, bonjour Emmanuel, bonjour
Cotidien. Bonjour Laure.
Laure, vous avez 24 ans, vous êtes nigériane.
Oui.
Votre parcours, c'est une licence en relations internationales et un master en droit international à Cotonou. C'est pour ça que vous parlez bien français.
Ah oui, c'est bien ça.
Et vous avez créé une société qui démarre tout juste, mais alors avec beaucoup de difficultés, qui s'appelle Punzelt Laure & Co. C'est une entreprise de construction de logements étudiants à Abuja, au Nigeria. Pour l'instant, très concrètement, dans cette entreprise, il y a les fondations d'un immeuble à 10 minutes de l'université d'Abuja et pas grand-chose de plus, si j'ai bien compris, hein, parce que vos travaux sont interrompus. Pour le moment, vous avez tout arrêté parce que vous n'avez plus de quoi financer.
Exactement, c'est ça.
Donc vous avez vraiment besoin des conseils du coach pour vous relancer. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans la galère du logement étudiant, Laure ?
La naissance de l'idée m'est venue lorsque j'avais commencé ma licence à Cotonou. Et puis l'appartement que j'avais pris, le bailleur n'était pas du tout honnête avec moi. Il me faisait payer les surplus. Des factures, et puis lorsque je partais en vacances, je revenais obligée de payer des factures que je n'avais pas consommées.
Ah oui.
Et cela m'avait vraiment marqué et je me suis dit, je dois créer une entreprise comme celle-ci et je dois créer des logements pour des jeunes.
Ouais, du logement professionnel pour les étudiants, clean, sans embrouille.
Ah oui.
Vous venez d'un pays, Laure, c'est le pays d'Afrique où il y a le plus d'universités. Hein. J'imagine quand même qu'il doit y avoir déjà beaucoup de concurrence, beaucoup d'entrepreneurs sur le marché du logement étudiant au Nigeria, non ?
Actuellement, au Nigeria, ce qui se passe, c'est que la majorité d'étudiants vivent dans les campus et d'autres vivent en dehors du campus. Notre projet, c'est au niveau de l'université d'Abuja, juste 5 minutes de l'université, juste après l'université. Donc avec ça, nous avons l'opportunité d'avoir étudiants du vendre dans nos logements.
Mmh. Vous, ce que vous voulez faire, c'est du studio ou des chambres, hein, alors que les étudiants qui vivent en dehors du campus, ils ont plutôt l'habitude de louer des appartements, des duplex, d'être en colocation. Hein, c'est plutôt ça, non, d'habitude?
Non, exactement. Je prends l'exemple sur moi, parce que moi, actuellement, vivre en colocation, c'est exactement la même chose qu'on vivre dans les campus, puisque dans les campus, vous êtes deux dans une chambre. Mmh. Par contre, quand vous êtes à l'est, ce que nous voulons, c'est quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes seul. Vous avez le choix de vivre seul dans votre studio. Quand je dis studio, c'est une chambre moderne, cuisine et douche.
Ouais. Le logement étudiant que vous proposez lorsque cet immeuble sera enfin fini d'être construit, c'est donc du logement étudiant, c'est du petit studio à près de 500 euros l'année, c'est-à-dire que c'est à peu près dans les 50 euros par mois, c'est ça, sur si on prend une année universitaire, grosso modo, un peu moins, un peu plus. C'est ça, hein ?
C'est ça.
D'accord. Donc, vous êtes compétitive en termes de prix ?
Oui, en termes de prix, c'est ça.
Quel est alors le problème à l'heure actuelle, Laure, pour vous ?
Ok, à l'heure actuelle, le problème, c'est que j'avais commencé avec les travaux et j'ai tout fait les documents. Nous sommes au niveau des fondations des 14 studios. En ce moment, je suis en train de faire 14 studios. Donc, nous sommes stockés là, nous ne pouvons plus bouger. Et actuellement, je n'ai pas pu contacter certains investisseurs parce que je suis à Cotonou pour mon master. Donc, c'est ça le problème.
Ça veut dire que vous avez commencé par mettre des fonds propres avec vous, avec votre associé, et aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent.
Oui, actuellement, le budget, c'était un budget de 10 millions de naira avec mon associé. Et actuellement, il m'a lâché, il n'est plus là, il n'est plus dans le pays et je me retrouve seule avec le projet. Donc, cela me rend un peu stressée et confuse.
Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire alors, Didier ?
Non, mais dans l'absolu, c'est un marché pour des étudiants. Et ce que je voulais dire d'ailleurs à Lionel et indirectement aussi à Laure, c'est qu'un projet immobilier, quand on fait un budget de 100, généralement on finit à 150. Donc ça aussi, en termes de garantie à vos clients, de leur dire que quand vous signez pour 100, c'est 100 à la fin, c'est pas vrai. Donc faut vous couvrir contre ce risque. Et c'est le cas de Laure aussi qui se retrouve...
Donc c'est pas une différence de 10% comme le disait Lionel, hein, quand on est dans l'immobilier. Plus que 10% de supplément.
Généralement plus, par expérience. Mais Lionel le découvrira avec le temps.
Mais alors pour Laure...
Effectivement, Laure, ce que je vois, hein, c'est-à-dire si elle n'a pas d'autres investisseurs qui pourraient rentrer dans son capital, idéalement, il aurait fallu signer une convention avec l'université. Parce que généralement, les campus sont saturés et l'offre n'est pas géniale, quoi, honnêtement, pour les étudiants. Et les universités essayent, comme je vois dans d'autres pays du monde, de signer des contrats avec des logeurs, avec des sociétés immobilières qui peuvent héberger leurs étudiants.
C'est ça, donc, du partenariat public-privé, en fait.
Exactement, hein. Puisque l'université n'a plus vocation tellement à construire des immeubles. Il peut construire éventuellement des salles de classe, voire même aujourd'hui, l'université est prête à louer des salles de classe que d'autres construisent. Donc, l'or aurait intérêt à voir l'université ou des universités qui sont à côté de son campus pour signer des conventions permettant de garantir l'occupation de son immeuble avec les étudiants. Idéalement même, l'université aurait pu signer avec vous un contrat disant quand ces logements seront terminés...
On s'engage à les remplir.
Exactement.
Donc quand elle va voir un banquier, forcément, on est
compris.
Sûr que quand l'immeuble sort de terre, il est occupé, voilà. Et il est rentable immédiatement.
Exactement. Donc l'université devient entre guillemets votre garant, votre caution pour aller voir les banques pour financer ce qui vous manque. Et l'université peut même être donc caution du financement que vous allez obtenir. Parce que le banquier, même s'il croit dans le projet, il sait qu'il y a une demande d'étudiants, etc., qui ont besoin de se loger, se dit, mais comment Laure va faire pour louer tout ça? Elle a 24 ans, elle n'a pas d'expérience dans l'immobilier. Et donc tout ça aussi, c'est la manière dont vous vous entourez dans le cadre de la réalisation du projet. Comme vous n'êtes pas dans du secteur, j'espère au moins que vos partenaires techniques ont la crédibilité qu'il faut sur le marché pour faciliter le financement que des banques peuvent vous octroyer.
Laure, il vous reste donc à établir un solide partenariat avec l'université d'Abuja maintenant.
Est-ce que vous l'avez déjà fait, ça?
Oui. Non, pas encore. Je ne l'ai pas encore fait. Je n'y avais même pas pensé.
En fait, ce qui rassure celui qui finance, c'est un, la crédibilité du projet, donc les partenaires avec lesquels vous allez travailler, la société qui vous construit actuellement l'immeuble, s'assurer qu'elle est sérieuse, elle a des références, donc ça va rassurer le banquier. Et deuxièmement, le client final. Donc le client final, pour moi, c'est l'étudiant, bien sûr, in fine, mais pour vous, c'est votre partenaire, entre guillemets, économique, c'est-à-dire l'université ou tout autre partenaire qui vous garantit que le client va payer. Donc ça, si vous arrivez à le faire, théoriquement, les banques devraient vous suivre plus facilement.
Laure, vous nous tenez au courant, hein, ça va sûrement se débloquer. Maintenant, il faut travailler vite en partenariat avec l'université d'Abuja. Bonne chance, en tout cas, c'est clair, vous êtes sur un marché porteur. Il y a la croissance démographique, il y a l'appétit des études, il y a ces campus qui n'en finissent pas de croître. On donne maintenant la parole dans quelques instants à une voisine qui se trouve à Lomé, c'est Nancy. Je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission ou à celle du mois suivant, puisque chaque mois on reçoit le coach Didier Acouetté. 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi envoyer vos projets par mail 7milliards@rfi.fr. Nancy, la voisine au Togo. Bonjour Nancy.
Bonjour Emmanuel. Nancy, comment allez-vous?
Eh ben, très bien, on est ravis de vous accueillir. Alors on passe de l'immobilier, du béton, du ciment à la cosmétique. Voilà. Vous avez 27 ans, Nancy. Vous avez...
C'est plus glamour.
C'est plus glamour. Et puis, de toute façon, il faut de tout sur un marché. Baccalauréat international pour vous, Nancy. Après, vous avez fait une licence en biologie moléculaire et biochimie structurale à Montréal. Des petits boulots, bah, comme tous les jeunes. Vous avez été maquilleuse. Vous avez créé des produits de beauté maison, un peu dans votre cuisine, hein, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, retour au Togo, fin 2017. Et là, vous avez créé, alors, un peu avec de l'appui financier Family and Friends, hein, comme aime bien dire notre ami Didier Akwété. Vous êtes bien entouré financièrement. Vous avez créé en septembre dernier Clara Cosmetics, qui est une société de vente, de distribution de produits cosmétiques, qui est en fait, ce sont des produits importés, hein, au Togo.
Mais aussi des produits locaux.
D'accord. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait une vraie demande dans le domaine des cosmétiques ?
Oui, parce que je suis rentrée déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de en cosmétiques à Lomé, pas juste en Afrique de l'Ouest. Et quand j'étais rentrée aussi, les personnes savaient ce que je faisais à l'étranger, c'est-à-dire j'étais très passionnée de cosmétiques, de maquillage, et je faisais mes propres produits. Donc tout le monde me demandait... Alors, on n'a pas ça ici. Quand est-ce qu'on pourra l'avoir ?
Ouais. Bon, je sens que vous étiez déjà bien connue sur les réseaux sociaux, que vous avez su vous en servir. Vous avez ouvert un premier magasin à Lomé. Il est déjà rentable ?
Oui, oui. Ça fait 7 mois que j'ai ouvert et on est déjà rentable.
Donc, vous êtes à la fois importateur, distributeur. Vous êtes aussi grossiste pour des commerçants ?
Voilà. Exactement.
Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Quelles sont les questions que vous vous posez pour continuer dans cette lancée, dans ce succès ?
Alors, la première grosse question que j'ai, c'est que, étant donné que Clara Cosmetics fonctionne bien et qu'on est déjà rentable, donc j'aimerais ouvrir d'autres boutiques dans d'autres pays. Par contre,
c'est-à-dire
quand j'ai ouvert à Lomé, alors j'aimerais beaucoup Cotonou, Abidjan, Dakar. Parce que je sais que là-bas, les femmes ont l'habitude d'être beaucoup plus coquettes, le pouvoir d'achat est plus élevé, il y a une classe moyenne, ce qu'on n'a pas ici.
Ouais, il y a aussi donc, pas mal de concurrence, mais enfin bon. Ouais.
Pas mal de concurrence, mais je me dis que ça pourrait être quand même intéressant d'apporter mon concept et ma vision dans ces pays-là.
Ouais.
Et justement, je voudrais demander au quotidien, à quel moment est-ce que... une entreprise peut penser à s'exporter, disons, hein, parce que je suis rentable, mais est-ce que je dois atteindre un certain seuil de rentabilité ou je me lance dès que je peux.
Didier à côté.
En fait, souvent, c'est la capacité à financer votre investissement. Vous êtes sur un... Alors, je vous comprends, vous êtes sur un petit marché aujourd'hui qui va se développer peut-être lentement et qui ne vous donnera pas l'effet de croissance que vous recherchez. Donc, première question en stratégie, on se dit, ma croissance, est-ce que je peux la faire sur mon marché local ou d'autres marchés ? Et si je vous entends, effectivement, vous avez peut-être plus de chances d'avoir une croissance plus accélérée sur des marchés comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc, dans ce cas, ça peut valoir le coup d'aller sur ces marchés dès maintenant pour soutenir, entre guillemets, votre développement. Maintenant, cela suppose que vos circuits d'approvisionnement, l'exclusivité que vous avez sur vos marchandises, la manière dont vous avez structuré aujourd'hui votre partenariat avec, avec ceux qui vous, les produits que vous vendez dans votre boutique ou que vous vendez à vos grossistes, que cette chaîne d'approvisionnement soit relativement bien huilée pour ne pas vous retrouver à gérer deux plateformes alors qu'il y en a une qui est en train de prendre forme et déjà de vivre. Donc, si vous avez un marché qui peut croître plus vite que celui sur lequel vous êtes actuellement, vous avez la capacité de financer cette croissance et ne pas pénaliser le premier marché d'origine, sauf si vous pensez sortir de ce marché, ça vaut le coup de le faire.
Mais est-ce qu'il faut forcément des produits en exclusivité ou on table sur la croissance démographique des villes, sur les besoins, qui fait que même si elle fait la même chose que ses concurrents, bah, y a de la place pour tout le monde ?
Alors, il peut avoir de la place pour tout le monde, parce que c'est vrai, le marché est en pleine croissance. N'étant pas expert en beauté féminine, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle les produits d'appel.
Ouais, vous avez un plus, vous avez des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, Nancy, c'est là-dessus que vous vous positionnez
ou
plutôt sur le conseil, sur tout ça.
Parce que vous dites, je gagne déjà de l'argent. Gagner de l'argent, ça veut dire que vous avez déjà amorti tous vos investissements et chaque mois maintenant, à la fin du mois, ce que vous gagnez couvre vos charges et vous laisse encore de la marge et vous avez déjà amorti tous vos investissements.
Exactement. Ouais, et ce qui fait ma différence...
Et vos investissements, on était quand même autour de 150 000 euros, me semble-t-il.
J'ai investi au moins 100 millions de CFA.
Ah oui, ça fait 101. Donc, vous margez très bien sur vos produits. Donc,
oui. Si vous conclusion, avez c'est l'arnaque, amorti, les prix des crèmes.
Amorti l'investissement, vous gagnez de l'argent, c'est du casino, quoi. Donc, c'est très bien.
Il a l'air bluffé, vrai, hein, Didier, je vous le dis. Là,
non, mais je sais que les femmes investissent beaucoup dans ces produits, mais si vous avez amorti tout ça en 7 mois...
Vous voyez, Lionel, vous voulez faire de l'immobilier. Non, faire de la crème de beauté.
Je pense que je vais me convertir.
Et sur la spécificité, alors, Nancy, de votre valeur ajoutée?
Ah oui, en fait, ce qui fait notre différence, c'est que même à Lomé, on n'a pas vraiment de concurrents parce qu'on est les seuls à faire ce qu'on fait. Les gens apprécient beaucoup le conseil, le fait qu'on connaît les produits, mais on dans nos réalités, comme des produits qu'il n'y avait pas ici avant, on soutient beaucoup l'artisanat africain, les made in Africa, et etc. Donc les gens sont vraiment emballés quand ils viennent parce qu'ils disent « Ah mince, je connaissais pas du tout, on a des produits qui viennent du Liban, qui viennent de la France. » Il y a des marques, des personnes qui ont lancé des produits en France et qui veulent déposer leurs produits chez nous. Des marques qui viennent des États-Unis. Donc c'est vraiment, c'est un concept complètement nouveau. Et bientôt, lorsqu'on va ouvrir notre plateforme digitale, donc là où les gens pourront acheter en ligne, parce qu'on a des personnes jusqu'aux États-Unis, au Canada, qui... Par exemple, les produits bien-être ne le trouvent pas là-bas. Mais nous, on le vend et on le vend...
Mais quoi, par exemple, comme produit?
Vous savez, c'est la diaspora surtout qui connaît ces produits-là. Bien-être, Narta, Mixa et tout ça. Bon, on va trouver les Mixa en France, mais on ne va pas en trouver aux États-Unis forcément. Et à bon prix. Donc souvent, les personnes viennent quand ils viennent en vacances, ils viennent se ravitailler chez nous. Mais ils nous encouragent grandement à ouvrir un site en ligne où ils pourront acheter directement. Donc c'est ce qui fait notre différence parce qu'on a quand même un grand éventail de marques et de gammes, que ce soit importées, fabriquées localement et fait maison ou fait fabriquer en laboratoire, en industrie.
Non, mais effectivement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a les produits d'appel, j'imagine, que les femmes connaissent, qui attirent toujours une clientèle. Et puis surtout, tous ces produits nouveaux que vous proposez, qui, c'est vrai, sont un concept très fort. Comme dans l'aéroport de Accra, il y a quelques mois, je passais et il y avait une boutique qui ne vend que des produits cosmétiques made in Ghana, très belle marque, super branding, comme on en trouve de plus en plus dans les capitales africaines. Donc, le concept est bon. Ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes en phase de développement accéléré, assurez-vous que ces produits que vous dénichez, que vous référencez chez vous, quand vous signez des partenariats avec les fabricants, les grands distributeurs, bah, c'est d'essayer de vous donner une sorte de petite exclusivité sur le marché local pour garder toujours un peu cet avantage concurrentiel.
Où est-ce que vous gagnez le plus d'argent, en tant que grossiste ou dans la boutique ?
En tant que grossiste pour l'instant.
Ouais. Vous avez une dernière question à poser, Didier, réponse très très courte s'il vous plaît, sur le recrutement d'un agent commercial, c'est quoi le problème ?
Alors en fait, j'ai remarqué que j'avais du mal à recruter des agents commerciaux ici. Je ne sais pas si au niveau de la méthode de paiement, s'il faut les salariés ou bien les payer à la commission, mais parce qu'on a besoin de commerciaux pour tout ce qui va être pour les grossistes, mais aussi pour informer aussi les gens. On a un rayon homme et un rayon enfant, donc les gens ne le savent pas aussi. Il faut que la personne soit vraiment motivée, je sais pas. Bien sûr, il y a aussi le fait que je sois une femme et que je sois jeune, donc ça aide pas aussi, mais surtout vraiment, quelle est la meilleure méthode pour s'assurer d'avoir un bon commercial? Est-ce qu'il faut le payer au salaire ou bien par commission?
Bon, il faut d'abord passer par un bon cabinet de recrutement, par exemple. Non, surtout, c'est le projet que vous leur proposez. Si vous gagnez de l'argent aujourd'hui et que vous êtes en train de développer votre business avec des filialisations, c'est mieux d'avoir des salariés qui vont grandir avec vous. Parce que souvent, le problème, quand on n'a pas assez de ressources, on prend des agents commerciaux qui, bien sûr, ne sont pas très fidèles à l'entreprise. Il n'y a pas de culture d'entreprise. Et donc, peuvent aller à la concurrence à tout moment ou arrêter de développer votre business à vous. Donc, si vous gagnez de l'argent, vous êtes en train de construire un modèle, il vaut mieux, effectivement, avoir au moins un ou deux commerciaux maison que vous formez à vos produits, qui vont accompagner votre développement, qui vont rester avec vous plutôt qu'un agent commercial qui, en fait, est un mercenaire de tout moment.
C'est ça, et un agent commercial en qui on a confiance, parce que je sais que Nancy, elle a un peu peur aussi d'un agent commercial qui se lance dans un double business parallèle et qui revend les produits du grossiste.
C'est très courant. Donc, si vous pouvez recruter un staff sérieux qui vous accompagne dans le projet, je pense que c'est un gage, entre guillemets, de sérénité pour vous.
Didier à côté, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous Nancy de nous avoir appelé.
Merci
évidemment.
À vous,
merci.
On vous souhaite bon vent.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
Trois projets, deux projets dans l'immobilier, un projet dans les cosmétiques. Est-ce que vous voyez un projet Afrique qui gagne là, dans ce qu'on a vu?
Peut-être le projet de Lionel, qui dans l'absolu est un bon projet. J'aurais été un peu plus loin parce qu'en fait, dans la chaîne de business de votre activité, c'est pas vous le problème, c'est les autres les problèmes. Et ouais. Donc, comment vous arrivez à garantir la promesse client en n'étant pas vous architecte, promoteur
c'est ça,
immobilier,
alors, petit flashback,
etc.
Hein, le projet de Lionel, c'est du projet intégré. Je cherche un terrain, je vous fais construire la maison, je m'occupe de
je
tout,
fais le suivi.
Notariat, l'administration, voilà. Le suivi de chantier, etc.
Sauf qu'il n'est pas promoteur.
Lionel, il est sérieux,
comment...
mais il est pas forcément, il travaille pas forcément avec des
c'est
gens
ça,
sérieux.
Comment il peut garantir l'effectivité et la promesse qu'il fait vis-à-vis du client, qui est souvent le gros problème dans ce secteur. Notre jeune ami Laure du Nigeria...
Mais je ne me sens pas très optimiste finalement, parce qu'il y a beaucoup de très bons professionnels maintenant dans ces secteurs-là, sur
oui,
le continent mais, africain.
Oui,
non
mais comme il y en a,
Lionel,
bon,
vous le trouvez pas pessimiste,
beaucoup de charlatans.
Didier,
non, mais, non mais parce que ce week-end encore, j'en parlais avec des amis, il y a beaucoup de charlatans, honnêtement, parce que le marché se développe, et donc le charlatanisme devient... entre guillemets, ce qu'on voit le plus.
Oui, et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est que nous, tous nos professionnels, en fait, nous avons présélectionné. Donc, on a fait des critères de sélection.
Mais vous voyez
avec
qu'il a l'air confiant, lui.
Les réalisations, les références.
Heureusement qu'il est confiant.
Donc, voilà. Donc, on a vraiment pris le temps, on a pris 2 ans pour vraiment sélectionner les professionnels avec lesquels on travaille, que ce soit les cabinets d'hôtel, les architectes, les constructeurs, pour s'assurer que vraiment ce sont des professionnels vraiment fiables.
Est-ce que Lionel, il pourra être rentable dans 5 ans, comme il le dit?
S'il ne prend que 500 euros de frais de dossier, il faut vraiment qu'il fasse du volume. En revanche, selon la manière dont il négocie...
Mais du volume sur une activité chronophage, quand même.
Selon la manière dont il négocie ses partenariats avec les entreprises qui lui reversent des commissions sur son apport d'affaires, il peut gagner très bien sa vie parce que, parfois, c'est des projets qui sont de 300, 400, 500 millions de CFA, 1 milliard de CFA, 2 milliards. Donc, sur ça, il peut gagner de l'argent.
Bon, donc, la conclusion, ce que vous retenez de ces trois projets, est-ce qu'il vous a intéressé en particulier ou peut-être le conseil qui serait valable pour d'autres?
Le projet de Nancy... Je le trouve, entre guillemets, original parce que vous savez que je suis attaché. Ce n'est pas forcément lié à la cosmétique, mais je suis attaché à cette émergence de produits africains, de Made in Africa, qui est en train de conquérir la classe moyenne africaine et voire même la clientèle internationale. Donc, de plus en plus, on va aller vers justement le Made in Africa de qualité, positionner des marques africaines en Afrique à l'international et arriver à trouver des espaces où on a du Made in Africa sur différents segments de produits et de marchés. Je trouve que c'est l'avenir.
On a de plus en plus de jeunes très bien formés en biologie notamment, et puis ça ne demande pas des investissements délirants non plus en termes de fabrication, petites unités de transformation, petits laboratoires.
À Abidjan,
on fait du stérile et hop, on conditionne.
On avait reçu une entrepreneure qui avait été formée à Polytechnique, école de chimie en Suisse, qui a ouvert son labo, qui fait des produits cosmétiques avec des plantes, avec tout à base de plantes naturelles, le produit naturel. Et ça marche assez bien, quoi. Donc, je pense que l'avenir, c'est un peu le Made in Africa pour l'Afrique et pour le reste du monde. Donc, ça me plaît bien.
Ça sera le mot de la fin. Merci, coach.
Merci, Emmanuel.
Vous revenez le mois prochain?
Avec joie.
Bonne chance à vous, Lionel. On était ravis de vous accueillir en chair et en os.
Merci,
un JPAG, un jeune patron de l'Afrique qui gagne. Merci à toute l'équipe. Delphine de Dianous qui a préparé cette émission. Sigrid Azerwal, Romain Dubrac. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Vous podcastez sur les plateformes de téléchargement. À demain, les voisins.